Le carrefour de l'info sur Arabelle.
Et on démarre ce carrefour de l'information pour revenir sur l'Africa Day. C'était le 25 mai dernier, une journée symbolique liée à l'Afrique pour parler de la mémoire coloniale, des libertés fondamentales. Et pour nous en parler, qui de mieux que Karine Thibault, directrice générale d'Amnesty International Belgique francophone, qui est avec nous. Bonjour Karine Thibault.
Bonjour.
Alors on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet, la Belgique et son fameux passé colonial. Est-ce que c'est assumé ou pas assumé vraiment en 2026?
C'est pas assumé, pas tout à fait en tout cas, parce qu'en fait on a eu tout un travail qui s'est joué au Parlement. Donc au Parlement on a une longue commission qui s'est réunie, qui a remis un rapport de 700 pages, qui fait l'analyse du passé colonial belge, que ce soit en République démocratique du Congo, au Burundi ou au Rwanda. Et puis cette commission a complètement échoué sur les résolutions et sur les décisions du gouvernement, sur la question des excuses et des réparations. Et donc on a eu que des regrets qui ont été exprimés, en tout cas par la royauté, par la monarchie, au moment d'une visite en République démocratique du Congo. Mais le gouvernement belge n'a pas, sur le passé colonial en tant que tel, émis des excuses et ouvert la voie des réparations, qui ne sont pas que financières, mais qui peuvent être symboliques. Par contre, ce qui est utile de dire, c'est que par contre, la justice belge a fait son travail. Et très récemment, ça date de la semaine passée, la Cour de cassation a confirmé un arrêt qui est aux yeux d'Amnesty International historique. Parce que c'est la première fois que la justice européenne, donc une cour de justice européenne, dans ce cas-ci c'était la cour d'appel, a défini que l'État belge, dans ce cas-ci, ou qu'en tout cas une ex-puissance coloniale, avait commis des crimes contre l'humanité. Et il se fait que c'est dans le cadre de la façon dont l'État belge a traité les enfants métis. Donc à l'époque de la colonie, il y avait une politique systématique d'enlever les enfants métis de leur maman, en général, qui étaient des très jeunes femmes de 15, 16, 17 ans, et de falsifier par ailleurs leur identité pour couvrir en fait la reconnaissance paternelle qui pouvait avoir eu lieu à certains moments, ou couvrir en tout cas l'identité du père, qui était un père blanc, et les confier à des missions religieuses. Et donc, pour la première fois, cinq femmes, qui sont cinq femmes métisses, qui ont des âges avancés, elles ont en général plus de 80 ans, elles sont nées en 1948 et 1952, dans cette période-là, eh bien ces cinq femmes métisses, elles ont eu le courage de porter plainte en justice pour attaquer l'État belge. Elles n'ont pas gagné en première instance, mais elles ont gagné en deuxième instance. Et donc, c'est la première fois qu'en fait, il y a une décision de justice au niveau européen qui reconnaît que les crimes du passé commis pendant la période coloniale sont des crimes contre l'humanité et qui nécessitent réparation. Et dans ce cas-ci, elles ont une réparation. Et la Cour de cassation vient de confirmer ce jugement. Et donc, pour nous, c'est un verdict absolument historique. Et c'est un verdict qui doit se reproduire dans d'autres cours et tribunaux et qui ouvre vraiment la porte à reconnaître que les crimes coloniaux sont des crimes au même titre que d'autres crimes, des crimes contre l'humanité pour la plupart. Et que les victimes qui sont maintenant très âgées, qui ont eu leur vie absolument détruite parce qu'on leur a volé leur identité, elles ont été enlevées à leur maman, elles se sont retrouvées dans des situations vraiment très dures. Et puis à l'indépendance, on les a aussi laissées. Elles ont été victimes de viols par ailleurs au moment de l'indépendance. Et même pour avoir la nationalité belge, elles ont eu beaucoup de difficultés parce qu'elles n'ont pas accès à leurs documents. Donc voilà, je voulais juste pointer ça parce que d'un point de vue politique, la Belgique n'a pas fait le travail, clairement. Il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas eu d'ouverture vers un débat sur la restitution, la réparation et ainsi de suite. Donc on a eu une commission parlementaire qui a fait un gros travail, il faut aller le lire, de 700 pages, mais ça n'a pas débouché à cause de dissensions politiques sur une position prise par la Belgique. Et au niveau de la monarchie, on a eu l'expression de regret, mais pas d'excuses. Or, il faut quand même le rappeler que des crimes coloniaux ont été commis et qu'une grande partie de la richesse de la Belgique, entre autres par exemple Bruxelles, je viens de passer par le cinquantenaire, sont issus de en fait l'extraction des richesses au moment de la colonie.
On va parler des jeunes afro-descendants nés en Belgique, si vous le voulez bien, des jeunes qui portent ce poids de l'histoire au quotidien. Est-ce que Amnesty les accompagne comment ?
Alors Amnesty n'accompagne pas les personnes directement, on fait pas un travail direct d'accompagnement, mais par contre ce qu'on fait c'est en tout cas faire des campagnes et du plaidoyer, et dans le cadre actuel, en tout cas nous on considère qu'on ne peut pas lutter contre le racisme si on ne parle pas du passé colonial. Et c'est essentiel de se rendre compte qu'il y a quand même une grande méconnaissance du passé colonial dans la société belge et qu'il est insuffisamment enseigné, et que donc on a quelque part quelque chose qui a fondé la ségrégation raciale, la différence entre les personnes, qui n'est pas enseigné, qui n'est pas analysé. Or, il continue d'être un substrat qui nourrit clairement les discriminations envers les personnes afrodescendantes. Et donc, pour nous, il est essentiel d'avancer Et c'est pour ça que cet arrêt, il est historique aussi, évidemment, d'avancer dans la justice, dans la réparation, dans la reconnaissance, et sortir du silence ou de seulement la connaissance, mais d'aller un pas plus loin pour pouvoir aussi attaquer les questions de racisme et dont sont victimes les personnes afrodescendantes. Il y a eu suffisamment de commissions, même internationales, qui ont démontré que la Belgique avait encore beaucoup à faire, par exemple en matière de discrimination à l'embauche ou de discrimination au logement. Et là, il faut le rappeler, on n'a toujours pas un plan fédéral de lutte contre le racisme qui soit un plan qui soit pas seulement fédéral, mais qui soit aussi avec les différentes entités qui permettent d'être plus proactifs dans la lutte antiraciste.
Alors, Karine Thibault, déboulonner des statues, renommer des rues, ce sont des symboles utiles ou, selon certains, des simples alibis pour éviter un vrai travail de fond ?
Je pense qu'Amnesty ne se positionne pas tellement sur le fait de savoir est-ce que c'est de l'alibi ou pas. Par contre, le fait de transmettre l'histoire coloniale, et ça ne se transmet pas seulement à travers l'enseignement, mais à travers aussi ce qu'il y a comme marque dans notre ville, dans nos villes, dans notre pays, comme marque du passé colonial, c'est essentiel. Alors, est-ce qu'il faut déboulonner les statues ou au contraire mettre à côté des statues des éléments explicatifs ? En tout cas, je pense que c'est essentiel que le passé colonial ne soit pas naturalisé sans qu'il y ait d'explication. Et il y a suffisamment de marques à Bruxelles ou ailleurs, du passé colonial et de l'expression de ce qu'était la suprématie blanche, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il est essentiel que on puisse expliciter les noms des rues, qu'on puisse se poser la question, enfin, on l'a fait, qu'il y ait une place Lubumba, qu'on ne laisse pas dans l'espace public des choses qui expriment la suprématie blanche sans les encadrer. Donc, c'est ça qui est essentiel. Mais je l'ai redit, ceci ne suffira pas s'il n'y a pas ailleurs un autre travail qui est fait. Et c'est pour ça que l'arrêt rendu par la Cour de justice, j'espère, va avoir des influences aussi dans d'autres cours de justice, mais aussi au niveau politique. Et de facto, 5 femmes ont obtenu réparation pour les torts que la Belgique leur ont fait.
Mmh. On le sait, il y a pas mal de conflits sur le continent africain. Sans les citer, le dernier en date, le drame qui se joue en ce moment au Soudan. Est-ce que la Belgique respecte ses engagements internationaux envers les personnes qui fuient justement ces zones compliquées, qui fuient l'Afrique ?
On est dans une situation absolument dramatique, parce que la Belgique est le plus grand désobéissant de ce pays, au sens où elle ne respecte pas les décisions de justice. Il y a plus de maintenant 16 000 condamnations en justice de l'État belge pour le non-respect de l'accueil des demandeurs et demandeuses d'asile. Donc ce qu'on ne dit pas, c'est que est-ce que la Belgique respecte la procédure d'asile ? Je pense qu'on a des instances indépendantes qui analysent les cas individuels des personnes et qui reconnaissent si les personnes vivent des persécutions à titre individuel et leur donnent le statut de réfugié, mais c'est plutôt au moment où elles font la demande d'asile, quand elles arrivent en Belgique, qu'en fait on se retrouve dans une situation dans laquelle il y a encore des gens qui se retrouvent à dormir à la rue parce qu'on ne leur donne pas le minimum, ça veut dire un toit, à manger et avoir chaud quand, en tout cas, il fait froid, c'est pas le cas maintenant. Mais donc, de facto, la Belgique ne respecte pas ses obligations en matière d'accueil. Et ça, c'est dramatique parce qu'on a un gouvernement qui est totalement indifférent par rapport à ça, qui s'assoit sur des décisions de justice, ce qui est inacceptable pour n'importe quel citoyen et citoyenne. Et donc, c'est là où le bât blesse. Je crois que ça, c'est quelque chose sur lequel on... C'est grave, parce que on est quand même dans un glissement de plus en plus grave. C'est pas parce qu'on est élu, Aline Van Bossuy, qui est la ministre de la Migration, dit « mais moi j'ai le soutien de la population », c'est pas parce qu'on est élu qu'on s'affranchit des lois. Comme tout le monde, un gouvernement est aussi tenu de respecter les lois qui ont été décidées au niveau belge ou au niveau européen. Et donc, c'est là où on voit un glissement un non-respect de l'état de droit, comme si tout un chacun pourrait décider qu'on ne respecte pas les décisions de justice. C'est valable pour un gouvernement comme pour n'importe quel citoyen.
Alors, j'ai évoqué instants des zones de conflit en Europe, sur le continent africain, justement. Quelle est la situation qui préoccupe le plus cette année Amnesty International, disons celle que les médias couvrent trop peu souvent, finalement ?
Le Soudan. Clairement, le Soudan. Après, choisir, c'est toujours un peu terrible. On n'a pas à choisir. Toute violation de droits humains est grave et toute violation de droit international est grave. On se bat sur de nombreux conflits, mais je dirais que la situation au Soudan, elle est dramatique. Elle est dramatique depuis 2023. C'est la plus grande crise au monde de déplacement. On a plus de 12 millions de personnes qui sont déplacées, un non-accès à l'aide humanitaire. Et nous, on n'arrête pas de signer, de sonner la, 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 la de De tirer la sonnette d'alarme. Je vais y arriver. De tirer la sonnette d'alarme parce qu'on est dans une situation dramatique où on voit, en tout cas, les civils payer un prix très très lourd à ce conflit, des violences sexuelles, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Alors, on a été heureuse de voir que les Nations Unies ont décidé de prolonger l'embargo sur les armes, de prolonger aussi une mission d'enquête. Mais il faut vraiment mettre toute la pression sur celles et ceux qui alimentent ce conflit et se méfier aussi. La région wallonne veut revoir son décret sur l'exportation des armes et octroyer pour nous beaucoup trop facilement des licences pour 5 ans, alors qu'on sait que tout contexte est très volatile. Donc il faut faire vraiment attention à ce que des armes wallonnes, par exemple, ne se retrouveraient pas dans ce conflit. Donc oui, le Soudan, pour Amnesty International, c'est une situation dramatique pour les civils.
Alors, c'est l'heure de la question qui fâche. Hein, à présent, certains gouvernements africains accusent directement, parfois, Amnesty International d'imposer une vision occidentale des droits humains. Une réponse.
La réponse, elle est facile. Hein. Les droits humains, c'est un projet de société et utopiste qui reconnaît à tous les humains, quels qu'ils soient, des droits, et que ces droits sont essentiels et doivent être respectés par les gouvernements. Et en fait, l'histoire même des droits humains, ce n'est pas qu'une histoire occidentale. Hein. Ça se fonde aussi sur une charte africaine, hein, une charte très antérieure, même à 1948, qui avait construit cette idée que le fait d'être humain donnait quelque chose et des droits, et je pense que de plus en plus aussi d'États africains attaquent les droits humains, mais aussi s'en servent et se servent du droit international. C'est le cas de l'Afrique du Sud qui est partie devant la Cour internationale de justice contre Israël pour la situation à Gaza. C'est le cas aussi de nombreux États africains qui ont porté maintenant auprès des Nations Unies la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Donc tous ces éléments-là montrent que la tendance, elle est plus bigarré. Je pense que parfois certains Africains qui attaquent les droits humains, c'est parce qu'ils attaquent, ils n'ont pas envie d'être critiqués sur une partie des politiques qu'ils mènent, hein, comme par exemple la politique sénégalaise en matière de droits LGBTQIA+, qui est particulièrement grave et violente. Et donc voilà, mais qu'en réalité, si on refait l'histoire des droits humains, ils se fondent aussi sur des éléments historiques en Afrique. Ils se fondent aussi, par exemple, sur la révolution haïtienne, qui est la première révolution noire d'indépendance en 1804, d'un pays qui était un pays d'esclaves contre les colons blancs et qui a toujours dit que finalement, on avait beau être esclave, on était quand même un humain, qu'on avait des droits.
Karine Thibault, ne bougez surtout pas, on marque une courte pause et on se retrouve juste après.
Le carrefour de l'info sur Arabelle.
Et on retrouve notre invitée du jour, Karine Thibault, directrice générale d'Amnesty International Belgique francophone. La liberté dans le sens plus large du terme, liberté de la presse, liberté d'expression et le recul global, y compris chez nous, ici en Europe. Alors, comment Amnesty International réagit face, disons, à ce recul finalement ?
On est dans un contexte très sombre. Hein. Donc nous, ce qu'on constate, c'est que l'ère des prédateurs a commencé. Et quand on dit l'ère des prédateurs, c'est le fait que des gouvernements, de plus en plus, se définissent comme autoritaires et utilisent des pratiques autoritaires pour museler toute critique et toute dissidence. Et on le voit aux États-Unis avec le président Trump, on le voit en Argentine avec Javier Milei, on le voit dans d'autres endroits du monde, que ce soit en Russie avec Poutine ou d'autres pays. Et évidemment, ce club des autoritaires a tendance aussi à soutenir dans tous les pays des pratiques de plus en plus autoritaires ou des mouvements qui sont plus qui veulent museler la liberté d'expression et la critique. Et c'est vraiment l'alerte est rouge, hein, parce que on voit tant le fait qu'aux États-Unis on a pu voir simplement des protestataires qui protestaient contre les pratiques de ICE, donc l'agence chargée du contrôle de la migration. Deux personnes être tuées à Minneapolis, ça c'était l'année passée. Et donc je pense que ça c'est extrêmement grave, évidemment, c'est la première fois qu'on voyait ça aux États-Unis. Mais on voit aussi dans d'autres endroits du monde, la liberté de la presse est particulièrement attaquée, des journalistes qui sont emprisonnés. Et en Belgique, on est très attentif aux nouvelles lois, par exemple l'avant-projet de loi du ministre Quintin sur l'interdiction, la dissolution d'associations, de collectifs, qui pour l'instant n'est pas sur la table du gouvernement, donc on attend de voir, mais qui pose beaucoup de questions en termes de liberté associative. Et s'il y a bien quelque chose que les Belges font, c'est se réunir dans des collectifs et dans des groupes, hein, que ce soit des clubs sportifs ou des associations de parents ou des ASBL. Et donc voilà, des choses qui nous inquiètent fortement. Et sur la question de la presse, on voit aussi des attaques très régulières sur la liberté de la presse et une plus grande concentration des médias qui amène aussi à peut-être moins de diversité ou moins de pluralisme d'opinion dans la société. Donc, des choses auxquelles on va devoir être attentif. Et je voulais dire, une des choses qu'on a dit dans notre rapport annuel, c'est l'ère des prédateurs est arrivée, mais l'ère de la résistance est aussi arrivée. Parce que les droits humains, la liberté d'expression, la liberté de la presse, ce ne sont jamais des choses qui sont acquises. Le jour où ça régresse, ce qui tiendra ces droits, c'est les gens qui les défendront.
Mmh. Encore deux, trois petites questions. Le temps passe très, très vite. On va parler un petit peu de vous, Karine Thibault. Un petit peu votre rôle, votre travail au sein de l'organisation et le travail de l'organisation au quotidien.
L'organisation au quotidien, c'est une organisation qui essaye de faire qu'en Belgique francophone, on puisse parler des droits humains à respecter ici en Belgique. Et je l'ai déjà dit, il y a des signaux suffisamment graves comme le non-respect de l'état de droit, des décisions de justice par le gouvernement, des atteintes aux droits des réfugiés ou de droits des migrants, des atteintes sur la liberté d'expression, le droit d'association. Et donc tous ces éléments-là font que c'est notre travail à nous de, en tout cas, faire de lancer l'alerte et de tout faire pour convaincre. Et c'est aussi notre travail aussi de dénoncer ce qui se passe à l'international et clairement le génocide à Gaza et ce qui se passe avec l'application de nouvelles lois sur la peine de mort qui vise directement les Palestiniens. Ce qui se passe aussi au Liban nous inquiète fortement et nous pensons que l'Europe devrait agir en conséquence et suspendre cet accord de la honte qui est l'accord entre l'Union européenne et Israël qui est bafoué tous les jours puisqu'il y a un article 2 qui dit qu'il faut respecter les droits humains. Je ne sais pas ce qu'il faut encore à l'Europe pour considérer que les gouvernements israéliens ne respectent plus les droits humains ni le droit international. Donc voilà, notre enjeu aussi à nous, c'est de défendre aussi ce qui se passe à l'international et appeler notre gouvernement et l'Europe en général, avec évidemment d'autres États européens, à être cohérente avec elle-même.
Voilà, cohérente avec elle-même. La conclusion de Karine Thibault. Je rappelle que vous êtes directrice générale d'Amnesty International Belgique francophone. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre Carrefour de l'info.
Info sur Arabelle.
Et dans votre carrefour de l'information, c'est l'heure de la pause technique avec Hamza Belakbir qui vient de nous rejoindre. Bonjour Hamza.
Bonjour Tariq.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez des nouvelles mesures de contrôle des malades de longue durée. Alors de quoi on parle exactement ?
Absolument, cher Tariq. Rappelons-nous quand même une chose, c'est qu'une société qui traque ses malades au lieu de les soigner, c'est une société malade. Le ministre socialiste flamand, Frank Vandenbroek, nous présente ses nouvelles mesures de chasse aux malades comme une politique de retour au travail, avec des gros guillemets bien évidemment. C'est a priori très joli sur le papier, mais dans les faits, on organise ni plus ni moins qu'une pression administrative, médicale et financière sur les personnes malades. Et j'aimerais avant tout être clair. Personne ici ne conteste qu'un retour au travail puisse être positif quand il est 1. Possible, 2. Souhaité, 3. Bien accompagné. Mais ici, quand on parle d'accompagnement, j'avoue que ça ressemble de plus en plus à une convocation et la main tendue commence à avoir la forme d'un coup de poing.
Alors concrètement, qu'est-ce qui change pour les malades longue durée chez nous depuis cette année 2026 ?
Eh bien, beaucoup de choses. D'abord, les certificats médicaux. La dispense de certificat pour le premier jour d'incapacité passe de 3 fois par an à 2 fois. Donc on perd un jour. Les certificats destinés à la mutuelle seront limités à 3 mois renouvelables. Et les médecins généralistes devront transmettre les certificats de plus de 14 jours à une plateforme de surveillance médicale. Donc même les médecins généralistes, votre médecin traitant, mon médecin traitant, sont fliqués. Ensuite, le salaire garanti en cas de rechute en maladie. Avant, si on retombait malade après 14 jours, un nouveau salaire garanti pouvait s'ouvrir. Désormais, ce délai passe à 8 semaines, presque 2 mois. Autrement dit, si jamais votre corps vous lâche à nouveau trop vite parce que vous êtes revenu, c'est vous qui payez.
Alors, il y a donc une sorte de responsabilisation accrue des malades de longue durée, c'est bien ça ?
Si vous voulez mon avis, cher Tariq, je pense que là, on va au-delà de la responsabilisation. Les malades devront désormais remplir un formulaire d'auto-évaluation. Et s'ils ne le font pas, convocation par le médecin conseil. Et s'ils ne répondent toujours pas, là, ils perdent tout simplement l'indemnité. Avant, la sanction était une réduction de 2,5%, juste pour donner un signal aux malades qu'il faut quand même qu'ils répondent. Maintenant, on passe à la menace de la perte totale. Même logique pour les convocations d'ailleurs. Ne pas répondre au coordinateur retour au travail, on perd 10% des indemnités. Ne pas répondre au médecin de travail dans un trajet dit de réintégration, c'est la perte de l'indemnité tout simplement.
Et le gouvernement dira que l'employeur doit aussi prendre sa part.
Oui. Il y a quelques obligations pour les employeurs qui nous écoutent. Par exemple, ils devront inscrire dans le règlement travail une procédure pour maintenir le contact avec les travailleurs en incapacité. Qui les contacte, à quelle fréquence, etc. Mais attention, Ce contact ne peut en aucun cas devenir du harcèlement déguisé. Le contrat est suspendu, donc le travailleur ou la travailleuse malade n'est pas obligé de répondre. Il n'a pas ou elle n'a pas à raconter son diagnostic, son intimité, sa dépression, son cancer, son burn-out, tout simplement à son chef.
Alors vous parliez aussi du temps partiel médical.
Oui. Et c'est essentiel. On a presque toutes et tous autour de nous un proche, une amie, un ami qui était en mi-temps médical, le fameux oui. mi-temps médical. Eh bien, une travailleuse malade, par exemple, peut vouloir reprendre progressivement. C'est souvent une bonne solution, d'ailleurs. Mais cette reprise progressive, eh bien, le patron peut la refuser. Mais si jamais il l'accepte, il faut absolument rajouter à ça un avenant au contrat avant la reprise qui précise, un, le type de travail, deux, le nombre d'heures, l'horaire, le salaire, etc. J'attire juste l'attention de notre audience. Sans cet avenant au contrat, l'employeur, le patron donc, garde une marge énorme pour modifier les choses dans son intérêt. Voilà donc le paradoxe de cette politique de chasse aux malades. On prétend encourager les retours progressifs des malades au travail, mais on fragilise celles et ceux qui veulent reprendre dans de bonnes conditions. Cher Tariq, reprendre le travail ne doit jamais, au grand jamais, vouloir dire reprendre le risque de se casser une deuxième fois.
Voilà, c'était la conclusion de la chronique de Hamza Belakbir. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, cher Tariq.